Je crois que ce qui est absolument remarquable et que chacun peut comprendre, c'est que la mobilisation des Nations Unies, des gouvernements, tout cela vient de la science. C'est la science qui a indiqué que la Terre se réchauffait, que la cause de ce réchauffement était l'augmentation de l'effet de serre, principalement due au dioxyde de carbone, mais aussi au méthane. C'est la science qui propose, avec la technologie, des solutions éventuelles, que ce soit en utilisant davantage de production électrique nucléaire, que ce soit en veillant à la biodiversité, en mesurant l'extinction des espèces, l'impact de l'activité humaine sur les forêts ou sur les océans. La chimie nous dit que les océans deviennent acides, etc., etc. Donc la science est au cœur de cette problématique mondiale qui ensuite, naturellement, doit être traduite en objectifs politiques, économiques, éducatifs, pour que les trajectoires de l'humanité s'infléchissent et préservent l'avenir.
Et on parle d'avancées scientifiques qui ont un impact positif sur le développement durable. Est-ce qu'il y a aussi des effets négatifs ?
La science explore le réel pour dire ce qu'elle peut en comprendre et pour dire la vérité autant qu'il est possible sur le réel. Donc la science n'a pas d'impact positif ou négatif. La science est la connaissance de la réalité, de la création du monde. Ce qui a un impact, c'est l'usage que l'on fait de la science. Par la technique, par l'industrie, par les activités humaines, les transports, les communications, etc. Donc la science nous donne des outils sur le monde et nous en faisons des choses qui peuvent avoir un impact très positif. L'augmentation de la durée de la vie, par exemple, depuis un siècle, est un résultat extraordinaire de la médecine et de la biologie. La facilité de communiquer entre les hommes, transformée par l'électronique et l'informatique, est un impact positif. Mais il y a des impacts qui peuvent être plus préoccupants, comme par exemple les armes nucléaires. C'est à partir de ce pouvoir que donne la science que l'homme doit se déterminer. C'est exactement ce que nous dit l'encyclique. Laudato si, elle dit au contraire très clairement que la science est bonne, qu'il faut faire plus de recherches, parce qu'elle est recherche de vérité, mais elle nous dit aussi que ne faire confiance qu'à la technologie pour assurer l'avenir de l'humanité serait incroyablement dangereux. Sur ce point, il me semble qu'il y a une cohérence entre la pensée de l'Église et l'activité scientifique. Qu'ensuite, nous devions nous préoccuper de justice, c'est le message tout particulièrement du pape François, et c'est une des tâches de la communauté scientifique aujourd'hui, en s'intéressant au développement durable, que de porter non seulement la recherche de connaissances et de vérité, qui est son métier même, mais aussi la recherche de justice, qui est une obligation de nature éthique, morale et bien entendu spirituelle.
Justement, vous avez été invité à intervenir sur le thème de l'éducation au développement durable. Est-ce qu'il y a un savoir du développement durable ?
Je dirais au pluriel, il y a des savoirs et il y en a un très grand nombre. Parce que nous avons l'habitude de cloisonner les sciences en disciplines, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, l'océanographie. Or, la question du climat est une question globale, tout interagit. Il y a de la chimie dans les océans, il y a de la biologie dans les forêts, il y a de la physique dans l'atmosphère, il y a de la météorologie dans la formation des nuages, il y a de l'astrophysique dans les relations entre la Terre et le Soleil, etc., etc. Donc ces questions du développement durable, du climat, de la biodiversité sont des questions qui mettent en jeu l'ensemble des champs scientifiques. Et un des problèmes de l'éducation, c'est que notre éducation est très souvent cloisonnée dans les sujets que les enfants rencontrent à l'école ou au lycée. Or, ici, nous sommes face à des questions difficiles, parce que mettant en jeu toutes ces sciences parcellaires, et en même temps essentielles pour l'humanité. Et donc, l'éducation doit faire comprendre à la jeunesse.
Et alors, comment, par quels outils on enseigne le développement durable ?
Je crois qu'on n'enseigne pas le développement durable. On enseigne l'état de la terre, par exemple. On enseigne l'état des forêts. On enseigne l'état des espèces animales sur Terre. On a appris récemment que 40% de la population de grands animaux a disparu dans les 20 dernières années. Voilà. Donc ça, ce sont des faits que la science révèle et que l'on peut enseigner. Maintenant, ce qu'on doit aussi enseigner, c'est mettre ces faits en perspective globale, montrer à quel point tout est en interdépendance. Et ça, c'est difficile de comprendre quand tout interagit avec tout.
Pour les enfants particulièrement ?
Moi, je pense que cette nouvelle génération, d'une certaine manière, elle y est préparée parce qu'elle avait l'habitude d'interagir avec sa famille, son environnement, son quartier, mais pas avec toute la Terre. Et aujourd'hui, les moyens de communication lui permettent une communication immédiate à la langue près, mais on voit bien que les jeunes sont très au courant du reste du monde aujourd'hui, bien au-delà de leur village, de leur ville ou de leur nation.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi sensibiliser les adultes à cette éducation au développement ?
Bien entendu. Moi, j'observe dans beaucoup de pays, à la COP22, il y a quelques jours, en Marrakech, à quel point la jeunesse est prête à s'investir. Et je pense que par la jeunesse, en particulier dans les pays en développement, les adultes peuvent progresser. C'est parfois par les jeunes que les parents comprennent. Aujourd'hui, ce sont souvent des jeunes qui expliquent aux parents comment utiliser leur ordinateur ou leur téléphone portable. On a un bon exemple avec ça. Voyez. On sait bien aussi que l'éducation des filles dans les pays en développement est une voie remarquable pour transformer la pratique des mères sur l'alimentation ou sur l'hygiène, par exemple. Je crois qu'on peut faire confiance à la jeunesse dans son élan de générosité, de créativité pour porter ces questions du développement durable et dire aux adultes, c'est de notre avenir qu'il est question, c'est pas du vôtre. Nous, dans 50 ans, nous ne serons plus là, les adultes. Mais les jeunes, eux, ils seront là et ils seront en position de soit de souffrir des décisions qui n'ont pas été prises, soit au contraire de poursuivre la mise en œuvre de bonnes orientations. Mais il faut cultiver à la fois des outils de compréhension, c'est le rôle de l'école, il faut qu'elle comprenne cette interdépendance complexe, ces effets qui vont se durer 50 ans, 100 ans, à partir des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et puis en même temps, il faut cultiver chez elle, au-delà de l'émotion et de la générosité, il faut cultiver l'espérance, qui est une vertu chrétienne fondamentale.
En France, quelle est la place donnée à l'éducation au développement durable ?
Elle n'est pas nulle. Il y a eu un certain nombre d'efforts du système éducatif, des programmes. Nous avons des nouveaux programmes cette année qui entrent en jeu pour mettre en place des éléments de compréhension du changement climatique, par exemple. Donc il y a une prise de conscience qui est réelle. Je ne suis pas certain que les outils pédagogiques qui permettent de comprendre que nous avons cultivé beaucoup avec la main à la pâte à l'Académie des sciences en France, soit encore à la hauteur des enjeux. Parce qu'il faut aller vite. Tout ça est urgent. Il faut que dans 10 ans, la jeunesse ait changé. C'est extraordinairement difficile de faire changer en 10 ans. Parce que le gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre, lui, il n'attend pas. Donc les enjeux de société liés au changement climatique sont urgents. Et les systèmes éducatifs répondent lentement au changement. Et là, nous avons un vrai enjeu. Alors, nous faisons ce que nous pouvons en France, mais aussi ailleurs, dans d'autres pays. Le Mexique, par exemple, dont Mario Molina, prix Nobel de chimie, est présent ici cette semaine. Le Mexique a lancé, sous son impulsion, un programme d'adaptation scolaire aux questions liées au climat. Donc, il y a du pain sur la planche.